Deuxième chapitre. Le financement des uniformes sous Louis XV, 1715 à 1774.
À la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, le duc d'Orléans, régent du royaume, remplaça le ministre de la guerre par un conseil de guerre composé de 11 membres, dont le maréchal duc de Villars, qui en était le président, et l'intendant Claude Leblanc. C'est avec ces deux conseillers que le régent traita la plupart des affaires. Claude Leblanc fut nommé ministre de la guerre en 1718.
Secrétaire d'État de la guerre, Claude Leblanc.
Annexé à l'ordonnance du 6 avril 1718 portant sur la réduction des bataillons d'infanterie et leur organisation hiérarchique, un règlement fixait le nouveau traitement que la couronne accordait à ses troupes d'infanterie. En sus de l'augmentation de soldes, un fonds appelé masse fut attribué à chaque compagnie et remis entre les mains des trésoriers pour être employé à l'habillement. Une partie de ces fonds était destinée à dédommager les capitaines des frais qu'ils avaient engagés pour l'habillement de leurs recrues. Ce fonds, payé sur le pied complet de la compagnie, était formé à raison de 2 sous par sergent et par jour et 1 sou pour le caporal, l'anspessade et le fusilier. Avec l'augmentation de la paie, on crut bon de supprimer la retenue sur solde et de laisser aux sergents et soldats le soin de s'entretenir eux-mêmes de linge et de chaussures. L'article 9 de cette ordonnance avait malgré tout prévu le cas où le soldat serait négligent. Le capitaine de la compagnie, dont dépendait le soldat, rendait compte au chef de corps qui seul pouvait ordonner une retenue sur la solde jusqu'à ce que tout manquement à l'entretien du linge et des chaussures soit rétabli. Le même jour, une nouvelle grille de solde fut dressée pour les cavaliers. Le montant de la masse fut calculé à raison de 1 sol par jour et par cavalier et dragon. Chaque capitaine recevait également 1050 livres par an pour la remonte de sa compagnie. Les variations de la valeur nominale des espèces ayant entraîné une sévère augmentation du prix des étoffes, la retenue en usage devint insuffisante de sorte que les capitaines ne furent plus en mesure de pourvoir entièrement à l'habillement de leur compagnie. Avec l'ordonnance du 24 août 1720, le secrétaire d'État de la guerre, Claude Leblanc, vint à leur secours. Pour compenser l'inflation monétaire, le gouvernement s'engagea à combler les déficits qui s'étaient creusés entre la faiblesse de la masse d'habillement et de la cherté des étoffes. Afin d'obtenir le meilleur prix, il décida de traiter directement avec la Compagnie des Indes pour la fourniture de toutes les étoffes tant pour les soldats, cavaliers et dragons, que pour les habits uniformes des officiers. En prévision de ce marché, on demanda au régiment de dresser un état du nombre d'hommes à habiller, et d'indiquer la couleur et la quantité des différentes étoffes nécessaires à la confection des uniformes. Ce système fit apparaître 2 inconvénients. Si l'État ne comblait pas le déficit, les capitaines prolongeraient la durée des vêtements pour ne pas être exposés à combler cette différence. Si, au contraire, l'État était disposé à le combler, les capitaines profiteraient de cette aubaine pour élever au plus haut l'éclat de leur compagnie qui, à cette époque, était toujours leur propriété.
La maréchaussée, ordonnance du 29 novembre 1728.
À la même époque, Louis XV, par son édit de mars 1720, supprimait la multitude des petites compagnies de maréchaussées créées depuis François Ier et commandées par des officiers établis sous différents titres. Il les réunissait en un seul corps composé de 30 compagnies correspondant aux 30 généralités du royaume. En établissant ces 30 compagnies sur un même modèle, commandées par des officiers de même titre et de même rang dans chacune d'entre elles, le roi entendait désormais soumettre la maréchaussée à la discipline militaire. Pour accompagner cette militarisation, Louis XV, dans son ordonnance du 16 mars 1720, portant sur la subordination et la discipline de ses compagnies, imposait désormais à la maréchaussée un uniforme semblable dans son aspect général à celui en usage dans les armées. Elle abandonnait enfin le hoqueton, la bourguignotte, les brassards, les tasselots et autres éléments de cuirasse qui lui avaient été imposés par Henri III dans une ordonnance de 1584. Pour financer cet uniforme, Louis XV, dans une ordonnance du 29 novembre 1728, établissait dans chaque compagnie de la maréchaussée une masse d'habillement à l'instar des autres armes. À compter du 1er janvier 1729, une retenue trimestrielle était effectuée sur la solde des exempts, brigadiers, sous-brigadiers et archers. Les retenues annuelles étaient les suivantes. Pour les exempts, solde annuel 700 livres, retenue annuelle 80 livres. Pour les brigadiers, solde annuel 600 livres, retenue annuelle 60 livres. Pour les sous-brigadiers, solde annuel 550 livres, retenue annuelle 48 livres. pour les archers, solde annuel 500 livres, retenue annuelle 40 livres.
Secrétaire d'État de la guerre, Nicolas d'Angervilliers.
Claude Leblanc mourut en 1728. Louis XV nomma au poste de secrétaire d'État à la guerre, Nicolas d'Angervilliers qui s'aperçut bien vite que les capitaines des compagnies d'infanterie et de cavalerie avaient amplement abusé de la générosité de l'État. Il s'appliqua à y mettre un terme. Afin de ne plus combler les déficits que ses officiers créaient pour l'habillement de leur compagnie, il décida de mettre en corrélation le produit des fonds destinés à l'habillement avec les dépenses. Pour y parvenir, l'ordonnance du 10 mars 1729 détermina que la durée de la veste et de l'habit serait portée à 3 ans. Les éléments à la charge des fonds de la masse furent précisés. On pensait par cette mesure d'équilibre, juguler toute dérive. Hélas, c'était sans compter sur les frais annexes imputés à cette masse et qui couvraient les frais de déplacement des officiers chargés de négocier les marchés, les frais d'emballage et d'expédition des marchandises. Ces dépenses soumises à l'arbitraire eurent bien vite raison de cette ordonnance qui n'atteignit pas le but qu'on s'était proposé. 4 ans après, en 1733, on crut obvier à tous ces défauts par une nouvelle ordonnance datée du 28 mai. Elle interdisait au seul régiment de cavalerie de se livrer aux achats d'habillement, sans avoir préalablement mis en concurrence les fabricants locaux sur la qualité, la quantité et le prix de chaque objet. Ces marchés ne pouvaient recevoir leur exécution qu'après avoir été approuvés par le secrétaire d'État. On ne sait par quelle considération, il fallut attendre l'ordonnance du 20 avril 1736 pour que cette mesure de bon sens soit élargie à l'infanterie.
Secrétaire d'État de la guerre, le comte d'Argenson.
Malgré ces mesures, la gestion de l'habillement confié au régiment se révéla désastreuse. Les corps, dans un état de dénuement affligeant, croulaient sous les dettes. Parut alors l'ordonnance du 19 janvier 1747 qui tenta de porter remède à cette gestion calamiteuse. Comme son prédécesseur, le secrétaire d'État de la guerre, le comte d'Argenson, se fixa de proportionner la dépense de cette masse à ses ressources naturelles. Pour cela, on détermina avec exactitude, pour chaque partie de l'habillement, les quantités de matière et les qualités qu'elle devait posséder. Ces précisions auraient certainement produit un résultat avantageux avec un appel d'offres au niveau du royaume, mais il fut décidé de laisser au régiment cette possibilité. Sans concurrence sérieuse et gérée par une administration régimentaire insouciante, les dettes continuèrent à s'accumuler et le gouvernement éprouvait toujours plus d'embarras à les acquitter. Le retard dans les paiements fut à l'origine de nouveaux abus de la part des fournisseurs. Profitant du caractère de dénuement dans lequel se trouvaient les régiments, les fabricants vendaient plus cher leurs marchandises dont ils altéraient bien souvent la qualité. À cela il fallait rajouter l'augmentation des étoffes occasionnées par la concurrence que se livraient les régiments entre eux. Ce désastreux système venait se joindre à la difficulté de faire des approvisionnements. Ainsi, il n'était pas rare que les hommes nouvellement incorporés fussent exposés à rester longtemps sans uniforme. Pour restreindre la dépense, on diminua les effectifs des corps, on fractionna annuellement le remplacement des effets. Ainsi, une ordonnance du 1er mai 1750 imposait que l'habillement des 16 régiments de dragons ne serait plus fait en totalité, mais seulement par tiers, par quart ou suivant la partie qui serait jugée indispensable. On fixa la quantité d'étoffe nécessaire pour confectionner chaque partie de l'habit et l'on imposa un uniforme plus standard dans ce corps qui s'était forgé de nombreuses particularités. Dans un règlement du 1er février 1751 relatif au paiement des troupes, il fut décidé que le montant de la masse toujours fixé à 20 deniers pour les sergents et 10 pour la troupe, serait désormais scindé en grosse masse et petite masse. La grosse masse, établie sur le pied de 12 deniers par sergent et de 6 deniers par brigadier, cavalier, hussard, dragons et soldats, était destinée à l'achat des étoffes pour le renouvellement des habits. La petite masse, constituée des 8 deniers restants par sergent et des 4 deniers pour les autres, était utilisée pour l'entretien et les réparations de l'habillement et de l'équipement. Les sergents et les hommes de troupe continuaient à s'entretenir en linge et chaussures au moyen de leur solde. De son côté, la maréchaussée était confrontée à un autre problème. La masse d'habillement s'étant révélée insuffisante pour les compagnies de maréchaussée ayant un faible effectif, il fut jugé utile de les regrouper en un seul fonds géré par les trésoriers généraux des maréchaussées. Ce fut l'objet de l'ordonnance du 10 octobre 1756. Le marché fut alors passé auprès d'un fournisseur général unique pour une durée de 6 années. Il était chargé de la confection des habits, surtouts et manteaux suivant les qualités et poids définis au marché et de leur livraison au chef-lieu de chaque généralité. Chaque prévôt général lui adressait les mensurations des exempts, brigadiers, sous-brigadiers et cavaliers concernés par le renouvellement des faits. Il fut décidé à cette occasion de fixer à 6 ans le renouvellement de l'habit et à 12 ans celui du manteau. L'aiguillette fut supprimée et la bandoulière ne fut plus obligatoire. Elle ne fut d'ailleurs plus fournie. Les bottines à boucles de cuivre furent supprimées et remplacées par une paire de bottes molles. Après 3 ans d'usage, les personnels concernés pouvaient prétendre à la fourniture d'un chapeau, de tissu et de boutons pour servir à la réparation de l'habit. Pour résorber les dettes accumulées par les régiments, l'État se trouva dans l'obligation d'augmenter le volume financier de la masse d'habillement. Avec l'ordonnance du 25 février 1758, on augmenta la valeur de l'allocation de 20 à 24 deniers pour les sergents et de 10 à 12 deniers pour les soldats, cavaliers et dragons. La grosse masse fut établie sur le pied de 16 deniers par sergent et de 8 deniers par soldat. Elle était destinée à la fourniture du juste au corps, de la veste, des culottes, du chapeau, du manteau, des housses et chaperons pour la cavalerie ainsi qu'à toute la partie de l'équipement. La petite masse, constituée des 8 deniers restants par sergent et des 4 deniers pour les autres, était utilisée pour l'entretien et les réparations de l'habillement et de l'équipement. Le 1er juin suivant, une ordonnance augmentait les appointements et soldes des troupes. Les sergents reçurent un supplément de solde de 4 deniers par jour, les caporaux, anspessades, grenadiers, fusiliers et tambours, 2 deniers. Avec cette nouvelle solde qui leur était versée sans aucune retenue, ils devaient continuer à s'entretenir en linge et chaussures. Comme il fallait s'y attendre, le désordre qui s'était installé dans ce commerce était tel que ces augmentations n'eurent aucun effet sur le but que l'on s'était fixé. Elles furent englouties comme les précédentes.
Secrétaire d'État de la guerre, le duc de Choiseul.
Avec la signature en février 1763 du traité de Paris qui met fin à la guerre de 7 ans, il était urgent de trouver une solution pérenne à ce problème. Sous le ministère du duc de Choiseul, on proposa de créer une régie économique pour gérer l'habillement de l'ensemble des troupes. Ce fut l'objet de l'ordonnance du 26 juin 1763. Grâce à ce système, ce ministère espérait enfin maîtriser les dépenses liées à l'habillement. Il escomptait même dégager un excédent financier permettant d'une part, à venir au secours de régiments frappés accidentellement par le malheur et, d'autre part, constituer des approvisionnements nécessaires pour équiper de nouvelles troupes. Les prétentions formées pour la création de cette régie économique n'étaient pas purement militaires. Elles avaient pour autre ambition de générer de l'activité auprès des fournisseurs et de leur garantir une production permanente et régulière, c'est-à-dire, sans avoir à souffrir des contraintes liées au délai de livraison des produits généralement fixés à l'entreprise après l'obtention d'un marché. Les fonds nécessaires à cette masse d'habillement demeurèrent fixés comme précédemment et versés mensuellement avec la solde. Ils étaient déposés dans la caisse du trésorier des guerres, chargé de payer directement les fournisseurs suivant les ordres donnés par le secrétaire d'État. Afin que ce commerce ne profite pas qu'à une poignée d'entreprises, les intendants furent chargés de communiquer à ceux qui en faisaient la demande, les échantillons ou modèles des étoffes entrant dans la confection des uniformes. Les soumissions étaient alors adressées directement au secrétaire d'État qui les acceptait ou les refusait. Ceux qui étaient retenus recevaient la visite d'un régisseur qui s'enquérait de la qualité et des prix pratiqués par la fabrique. Un compte rendu était ensuite adressé au ministre. Lorsque la fabrique avait été retenue, elle recevait un tableau des produits à réaliser et un état des marchandises à verser dans les magasins généraux et particuliers qui avaient été implantés dans tout le royaume pour faciliter les approvisionnements. Ainsi, Lodève, Lyon, Mortagne, Rouen, Paris et Metz possédaient un magasin principal, Strasbourg, Valenciennes, Rennes et Lille, un magasin particulier. Les intendants étaient chargés de surveiller les approvisionnements. Les régisseurs étaient responsables de la qualité des marchandises. Celles qui avaient reçu leur agrément étaient immédiatement marquées et entreposées dans les magasins qui étaient soumis à la surveillance des commissaires des guerres. Ce modèle de gestion offrait l'avantage de faire connaître à l'avance aux fabricants ce qu'ils devaient réaliser leur permettant ainsi de lisser leur production. Ils étaient payés mensuellement par les trésoriers des fournitures produites et réceptionnées. Le commissaire des guerres, chargé de la police des magasins, dressait chaque mois un état d'entrée et de sortie des matières qu'il adressait au secrétaire d'État. Le régisseur était tenu de faire semestriellement l'inventaire des quantités en nature et en espèces de son magasin. Son traitement était fixé à 4% de commission, lui permettant de couvrir ses frais généraux et lui tenant lieu d'honoraires ou de bénéfices. Les frais de transport liés aux approvisionnements des magasins particuliers et ceux liés aux expéditions à faire au régiment étaient imputés sur les fonds de la masse d'habillement. Le 20 mars 1764, parut une ordonnance pour l'établissement d'une masse pour l'entretien du linge et chaussures. Cette masse, financée par une retenue sur solde, avait été supprimée en 1718 et on avait laissé aux sergents et soldats le soin de s'entretenir eux-mêmes. Les besoins n'étant plus les mêmes, on crut bon de la recréer. Elle fut fixée pour l'infanterie sur le pied de 16 deniers par jour par sergent et tambour-major et 8 deniers par caporal, appointé, grenadier, fusilier et tambour ordinaire et pour la cavalerie à raison de 16 deniers par jour par maréchal des logis, fourrier, brigadier, carabinier, cavalier, hussard, dragon et tambour. Sur ces comptes créés pour chaque militaire devait subsister une somme de 15 livres qui devait servir pour des besoins imprévus. Un décompte était fait aux militaires tous les 4 mois. À cette masse s'ajoutait une masse de réparation et d'entretien abondée par le trésor suivant le même principe que la masse d'entretien du linge et chaussures. Elle s'élevait à 24 livres par homme et par an. Ce modèle de gestion, qui semblait donner satisfaction, fut l'objet de ce qui parut alors être une amélioration. Dans un règlement du 24 juillet 1767, les fonds de la masse d'habillement ne furent plus déposés dans la caisse du trésorier des guerres. Les régisseurs en devinrent les dépositaires et furent chargés d'acquitter toutes les dépenses relatives à l'habillement. Pour assurer cette nouvelle charge, l'État leur accorda, en sus des 4%, une autre rétribution de 1,25% à percevoir sur toutes les dépenses. Peu scrupuleux, les régisseurs augmentèrent les dépenses au point de mener à la ruine une institution qui promettait les plus grands avantages.
Secrétaire d'État de la guerre, le marquis de Monténard.
Avec le règlement du 17 avril 1772, le marquis de Monténard, nouveau secrétaire d'État à la guerre, supprima la régie et l'on revint aux errements antérieurs en donnant à chaque régiment la liberté de choisir ses fournisseurs et d'acheter les marchandises qu'il jugerait nécessaires au service. Des formalités administratives furent adaptées à ce nouveau système. Le choix des matières, les confections et réparations furent, dans chaque régiment, confiés à un officier choisi parmi les capitaines. Le résultat de ces nouvelles dispositions fut, comme il fallait s'y attendre, catastrophique. Ce système obligeait le régiment à détourner de son service un officier presque continuellement pour qu'il se livre à des spéculations commerciales pour lesquelles il n'avait aucune notion. Bien souvent, cet officier élu par ses pairs pour accomplir une mission qu'il exécutait sans enthousiasme compromettait financièrement le corps par son inexpérience. Il n'y eut besoin d'une longue expérience pour démontrer l'absurdité d'un semblable système. S'il nuisait aux finances de l'État, il devint également préjudiciable à l'industrie et à la prospérité des grandes manufactures, en laissant les fabricants dans l'incertitude de commandes subordonnées à la volonté des régiments. 3 ans plus tard, la faculté des achats laissée aux régiments par le règlement de 1772 fut supprimée.